Voilà, donc je vais resituer un peu ce projet et ensuite j'appellerai tous les binômes qui ont organisé les ateliers à venir pour de petites présentations de chaque atelier. Donc je vais faire un peu un historique de ce projet de recherche. Donc en 2024, à l'initiative de Paris 8, le programme de recherche sur le cinéma de la petite économie a débuté avec Eugénie Zonkine et un groupe de jeunes docteurs et doctorantes de Paris 8. J'ai rejoint ce groupe sur l'initiative de Eugénie et de Natacha Sévin, avec laquelle je travaillais à Bordeaux. Ce programme donc se proposait d'interroger la création, la production et la diffusion d'un cinéma français réalisé avec des moyens limités, en marge des circuits industriels traditionnels. Il voulait décrire les choix esthétiques, politiques et organisationnels qui amènent des cinéastes à travailler avec de faibles budgets, que ce soit par refus des normes imposées, par contraintes financières ou par désir d'expérimentation. Il s'agissait donc de comprendre la singularité de ces démarches cinématographiques, souvent collectives, et de démontrer comment les contraintes économiques peuvent devenir source d'inventivité et de formes nouvelles. Nous nous intéressions aussi bien au processus de création qu'au réseau de production, à la circulation des œuvres et aux accompagnements institutionnels. Plusieurs dénominations sont alors évoquées, cinéma indépendant, autonome, guérilla, film pauvre ou de contrebande. Notre programme prend finalement le nom de Petite Économie, sans nous satisfaire tout à fait, et s'inscrit dans la lignée des différents travaux universitaires. Donc je ne citerai aujourd'hui que le programme de recherche sur le cinéma guérilla de Kira Kitsopanidou, Cécile Sorin et Emna Mrabé, qui a donné lieu l'an dernier à une publication d'un numéro de la revue Théorème. Il nous semblait important de montrer comme l'université peut ouvrir un espace de réflexion sur les spécificités de ce cinéma et participer à définir ce qu'est un cinéma de petite économie en France aujourd'hui, au-delà des seuls critères budgétaires, soit donc des longs métrages de fiction de moins de 500 000 euros, et à analyser comment les contraintes matérielles influencent l'écriture, la mise en scène, la temporalité des projets et favorisent l'émergence de pratiques collectives, de dispositifs collaboratifs et de modes de production alternatifs. Il s'agissait donc de comprendre aussi les stratégies de diffusion de ces films en examinant les spécificités de ces circuits de diffusion, festivals, plateformes numériques, initiatives de distribution indépendante, et de réfléchir à la façon dont les institutions, festivals, associations et plateformes soutiennent ou freinent la visibilité de ces œuvres. Le programme s'est structuré en plusieurs journées d'études, réunissant universitaires de Paris 8, Bordeaux-Montaigne et Poitiers, et de professionnels, cinéastes, producteurs, distributeurs, programmateurs de festivals, institutionnels, le Grec et Alca, entre autres, acteurs associatifs, responsables de plateformes numériques. Donc en mars 2024, à l'INHA a eu lieu une première journée intitulée « Création, pensée, fabriquée », qui cherchait à définir le cinéma de petite économie en proposant une réflexion sur l'articulation entre budget, échelle de film et spécificité des gestes de création-production. Nous avons alors cherché à préciser les contraintes qui pèsent sur ce cinéma, un certain dépouillement, la gestion du manque qui induit aussi une certaine prise de risque. Nous avons souligné que des choix esthétiques pouvaient naître de la contrainte, tout comme un rapport original au réel. Enfin, tel un laboratoire, ce cinéma donc, dit de petite économie nous a semblé faire émerger de nouvelles façons d'envisager le travail commun du cinéma, allant jusqu'à parfois tendre vers des utopies politiques en proposant de faire communauté. Nous avons donc cherché à rendre compte du rôle des collectifs, de l'entraide, des espaces de mutualisation des moyens et des savoirs. Les deuxième et troisième journées s'intitulaient « Diffusion, montée, pensée » et se sont déroulées en octobre dernier à Bordeaux dans le cadre du FIFIB et à l'Université Bordeaux-Montaigne. Ces rencontres ont permis d'interroger la circulation et la visibilité du cinéma alternatif, le rôle des festivals dans la valorisation des films, des dispositifs institutionnels de soutien, les stratégies de distribution indépendante, les nouveaux enjeux de la recherche et création à l'université et la place croissante des plateformes numériques pour toucher de nouveaux publics hors des circuits classiques. Ces journées nous ont permis d'identifier des enjeux transversaux, tels que redéfinir la notion de valeur et de légitimité pour un cinéma dit pauvre, pour reprendre la terminologie de Jean-Louis Comolli, rendre compte de la diversité des pratiques et des modes d'organisation, penser la place des réseaux alternatifs et du collectif, l'impact des mutations technologiques, vidéos légères, plateformes, les logiques d'entraide et d'autoproduction. Enfin, interroger les obstacles à la diffusion et les potentialités offertes par les nouveaux canaux, festivals, plateformes. Aujourd'hui, avec ces journées sur la production légère et sobre, nous élargissons encore un peu la focale en reprenant la dénomination de production légère, largement utilisée par les professionnels et les institutions. Grâce au soutien du PEPR ICAR, nous tentons une forme innovante de rencontre entre universitaires et professionnels. Après une plénière relativement courte, au cours de laquelle nous entendrons Justine Gustin du Centre de cinéma et de l'audiovisuel de Wallonie-Bruxelles, qui nous présentera l'aide aux productions légères qu'ils expérimentent depuis quelques années en Belgique, nous rejoindrons donc les quatre ateliers que je rappelle brièvement en appelant chaque binôme à venir nous rejoindre pour une présentation. Donc l'atelier 1 sera consacré aux dispositifs de soutien et aux productions légères, ainsi qu'à la viabilité de ces systèmes économiques pour les films et ceux et celles qui les font. Il est coordonné par Émilie Lamoine, donc universitaire et cinéaste, je ne sais pas dans quel ordre il faut prendre, et Pamela Varela, réalisatrice et membre de l'ACID. L'atelier 2 se consacre aux nouvelles donnes pour les cinéastes en région. Il est coordonné donc par Jean-Raymond Garcia, réalisateur et producteur, et moi-même. L'atelier 3 est consacré à la co-responsabilité des conditions de travail au sein d'équipes réduites. Il est coordonné par Ariane Papillon, réalisatrice et universitaire, elle aussi. Et Anna Sauvage, chef opératrice et cofondatrice du collectif On est Raccord. Enfin, l'atelier 4, je me tourne vers Eugénie Zonkin, qui est une des coordinatrices, donc, se consacre à la visibilité et la diffusion des films peu ou pas financés. Il est coordonné par Eugénie et Cécile Saurin, ici présente. Donc, je vous appelle à venir pour une brève présentation de ces ateliers. On a décidé de faire les choses de façon assez brève, comme ça, pour éviter, pour que la journée soit assez dynamique et laisser un maximum de temps, en fait, au travail par groupe.
On va laisser surtout les binômes côte à côte. Hein.
Ouais,
on peut. Je vais le mettre rapidement.
Tu veux, Jean-Raymond. Jean-Raymond, tu veux venir.
Jean-Raymond, viens à côté de Marguerite. On va faire un truc
cohérent
par rapport au binôme. À séparer les binômes.
On ne casse pas les binômes.
Merci à tous d'être venus. On fait peut-être dans l'ordre des... On te laisse la parole, Émilie.
D'accord. Merci. Bonjour à tous et toutes. Lorsqu'on a pensé cette journée, j'ai immédiatement pensé à l'ACID, puisque je savais qu'un groupe de travail sur... qui réfléchissait à la façon dont pouvait être adapté en France, c'est-à-dire par les institutions françaises, ce dispositif de soutien à la production légère qui existe en Belgique. Et donc, j'ai immédiatement pensé à eux et leur ai proposé qu'on travaille ensemble. Et je suis heureuse que l'ACID ait répondu à nouveau présent, après avoir participé à nos journées d'études l'année dernière à Paris et à Bordeaux, consacrées au cinéma de petite économie, comme en parlait Marguerite. Et je suis heureuse que Pamela Varela, donc cinéaste et productrice, membre de l'ACID, trésorière de l'association, et qui a participé dernièrement à la programmation de l'ACID à Cannes, ait accepté de coordonner avec moi cet atelier, où, donc, sur les consacrés aux dispositifs de soutien en production légère, nous nous demanderons quel film, quel cinéma, au pluriel, pourrait en bénéficier, sur quels critères, avec quelles obligations. Et nous penserons donc à la viabilité économique que permet ou peut-être ne permet pas ces dispositifs pour les films et pour celles et ceux qui les font. Antoine Barraud, réalisateur membre de la SRF et producteur. Martin Berthier, producteur. Tom Durand-Bonnard, directeur de production, qui a consacré son mémoire de master à l'INSAS aux productions légères, Robin Fresson, chef opérateur, Pauline Gineau, déléguée générale de la CID. On est très heureuse qu'elle soit avec nous aujourd'hui. On n'a pas réussi à avoir de distributeur présent dans notre groupe, et donc on est heureux que Pauline puisse aussi porter un peu les difficultés, la parole et les problématiques rencontrées par les distributeurs. Justine Gustin, donc, que Marguerite a présenté, qui sera avec nous aussi dans cet atelier. Gaëlle Jones, productrice, et Éléonore Saint-Aignan, réalisatrice, qui a bénéficié de l'aide à la production légère pour son film Camping du Lac. Et voilà, je laisse la parole à Pamela, si tu veux dire quelques mots.
Oui, je vais juste... Parfait, merci. Bon, on est ravis, effectivement, de participer à cette journée de réflexion, surtout, puisqu'on a besoin d'espace de réflexion pour élaborer ensemble et de façon transversale des projets qu'on pourrait... effectivement porté aussi aux institutions, donc c'est super. Nous, sur ces questions de la production légère, ben, ça fait un petit moment qu'on en parle, qu'on discute, qu'on réfléchit là-dessus, ça doit faire à peu près 7-8 ans. De toute façon, on est parti d'un constat qui était assez simple, que les cinémas, les films avec le label recherche, ben, représentent à peu près 10% des films financés par le CNC ou d'autres institutions, donc ce qui est quand même un peu léger. Donc il y a vrai, nous cinéastes à la CID, on est tous concernés un peu par ces questions, et on a été très intéressés depuis un petit moment à voir un peu ce qui se faisait un peu en Europe autour de ces questions-là. Donc voilà, aujourd'hui je pense qu'on va être plus dans le concret, ce qui est super aussi, et on est ravis de pouvoir mener cette journée tous ensemble. Voilà.
Je me tourne vers toi, hein, je te laisse.
Non, mais c'est...
Je peux juste te dire que, il me semble qu'une des questions qui a animé nos discussions, en fait, pour la préparation de ces ateliers, c'est cette question, donc, de savoir si les politiques territoriales pouvaient être un levier, donc, pour sauver les productions légères qui sont de plus en plus attaquées. Et je suis ravie, en fait, d'avoir pu travailler et discuter avec toi. C'est vrai que ça faisait longtemps qu'on commençait à initier un dialogue tous les deux, et je suis ravie de te laisser la parole.
Merci. D'abord, je voulais remercier Paris 8. À vrai dire, je suis très fier d'avoir été invité par deux labos de recherche. Dans ma scolarité, ça m'est rarement arrivé. L'autre chose, je suis très heureux que soient réunies des associations de cinéastes sur ces questions-là, la CID, la SRF, puisque je fais partie de la Société des réalisatrices et réalisateurs de films, où j'anime le groupe Région, je viens de là, et également les travaux menés au titre des productions légères, qui ont été engagés aussi par Antoine Barraud, que je vois, et Nicolas Klotz, avec le groupe dédié au nouveau modèle. Et c'est peut-être là où se niche d'ailleurs cette idée de nouvelle donne pour les cinéastes établis en région, et pas que, du reste, comment les politiques territoriales peuvent concerner autre chose que l'impact économique de blockbusters européens, de séries pour Netflix et également pour les diffuseurs. J'ai eu la chance de travailler à mes tout débuts qui ont coïncidé avec la création au sein du CNC du service de l'action territoriale. C'est pour ça que pour nous, pour Marguerite et moi, c'était évidemment très important d'avoir une représentation du CNC très pionnière à l'époque, et qui a notamment déployé pendant de longues années un travail de coopération avec non seulement les conseils régionaux, mais aussi les organisations professionnelles, pas seulement d'ailleurs sur le champ de la création et de la production, mais aussi sur le renforcement, la consolidation de l'action culturelle, le déploiement de nouveaux dispositifs d'éducation aux images. Je pense notamment à lycéens au cinéma, initié à l'époque via des expériences portées par des pôles régionaux que l'on doit à Catherine Trottmann quand elle était ministre de la Culture. Et puis surtout, donc je salue Gérard Pardessus qui est là, qui a été aussi pendant très longtemps directeur des affaires culturelles à la ville de Nantes. Et puis, j'ai perdu le fil de ma pensée, excusez-moi. Marguerite évoquait la question du politique. La question du politique, elle pourrait presque se placer dans cet intitulé avec un point d'interrogation en réalité. Vous avez vu qu'il est indiqué « nouvelle donne pour les auteurs et cinéastes en région », point. À vrai dire, en sortant d'un certain nombre de réunions ces derniers mois avec un certain nombre de représentants des politiques territoriales, je pense que Marguerite et moi, on aurait dû réfléchir à mettre un petit point d'interrogation parce que la situation est quand même assez détériorée avec des politiques publiques territoriales qui désormais font quand même assez globalement le choix du marché. Je pense aussi qu'on en parlera sans doute. Le déploiement de la grande fabrique de l'image, qui est précisément la nouvelle donne de la réflexion du CNC et de l'État à l'endroit des territoires, influe considérablement sur nos travaux à tous, pas seulement d'ailleurs les autrices et les auteurs. Je pense aussi au tissu des producteurs qui, dans le domaine du cinéma d'auteur, de la recherche, sont des artisans, probablement d'ailleurs nos premiers collaborateurs de création, et que eux aussi sont menacés par une dynamique qui n'est pas très folichonne, si vous me passez l'expression. Parmi les invités, je suis ravi qu'elle ait pu venir. Donc Pascal Breton, à qui on doit plusieurs très beaux films, courts et longs métrages confondus. Fabien Ferrari, qui est coordinateur des dispositifs de création à la Forêt électrique. Vincent Gérard, un autre néo-aquitain, on est désolé, on est un peu en force, mais l'occasion était trop belle, à vrai dire. David Hurst, producteur à Dublin Film, et qui est également le co-président de l'association Produire en Nouvelle-Aquitaine, et actuellement à l'initiative d'une possible et j'espère très probable fédération des associations régionales de producteurs. J'en profite pour saluer Marie de la Sardine qui est là. Olivier Meneux, que je ne présente plus, un vieil ami qui a eu, il y a déjà quelques années, mis en œuvre le pôle régional d'éducation aux images à Amiens, la CAP, dont j'ai été administrateur pendant quelques temps et qui a aussi participé, créé les ateliers Médicis. Gérard Pardessus, que j'ai déjà cité, notre vedette américaine. J'excuse Juliette Prissard, ancienne déléguée générale du syndicat des producteurs indépendants, qui ne pourra être là que vraisemblablement
dans l'après-midi.
Et à coup sûr demain. Et enfin, Raphaël Rio, qui est autrice, réalisatrice, et qui est particulièrement active, notamment dans un collectif à Bordeaux qui s'appelle la Tribune des auteurs néo-aquitains, où elle participe activement des échanges avec l'Agence du livre et du cinéma, le Conseil régional et les autres collectivités associées. Et puis évidemment Marguerite, donc j'en profite pour la remercier de la confiance accordée pour cet atelier. Voilà.
Merci. On passe la parole à Ariane Papillon.
Donc bonjour. Donc je coordonne l'atelier Équipe réduite et co-responsabilité des conditions de travail avec Alain Sauvage, qui est chef opératrice et co-présidente du collectif On est raccord. un collectif qui s'intéresse aux rapports de domination dans le cinéma et au développement d'outils d'intelligence collective. Et tu peux en dire un petit mot après si tu veux. Donc notre atelier va s'intéresser aux conditions de travail de celles et ceux qui font les films, réalisateurs, réalisatrices, producteurs, productrices, techniciennes et techniciens, interprètes, et aux relations entre ces personnes dans le cadre de la fabrication de films courts et longs, documentaires et fictions, produits avec des économies réduites, avec pour horizon l'économie du long métrage pardon, et sa diffusion en salle. Donc ces économies sont variables, on l'a rappelé, de 0 euro à 1,5 million, mais nous allons partir d'un point de départ fondamental qui est une distinction. La distinction entre d'une part des films faits avec un petit budget, mais qui auraient dû être produits avec bien plus d'argent, et qui se font malgré tout et à tout prix, souvent au prix des conditions de travail des membres de l'équipe, de leur juste rémunération, de leur bien-être, et d'autre part, les films de petite économie qui se font avec la juste enveloppe, celle qui correspond au projet, celle qui suffit à peu près pour le mener à bien sans exploiter tout le monde. Puisque c'est de ce deuxième cas de figure que nous souhaitons défendre, nous partons du principe que ces films-là doivent se faire en équipe réduite. Car si l'on veut payer tout le monde correctement, cela veut dire être moins nombreux que sur un tournage en grosse production. Donc qu'est-ce que ça change de travailler en équipe réduite? Qu'est-ce que cela empêche? Qu'est-ce que cela permet? Comment penser ce fonctionnement dès l'écriture du film? Quelles sont les conséquences notables sur l'esthétique d'un film d'un tournage en petite équipe et avec une petite économie? Et comment peut-on faire de la préparation d'un film, du tournage et même du temps de la post-production des espaces démocratiques où chacun se sente à sa place, ses besoins et ses limites respectés et sa voix écoutée? C'est notamment cela que nous allons nous demander en écoutant les retours d'expérience des uns et des autres. Et donc notre atelier cherchera à établir des critères qui semblent nécessaires à tous et à chacun depuis son propre positionnement, en fonction de sa profession et des intérêts de celle-ci, pour mettre en place sur un film à petit budget des conditions de travail acceptables et même confortables, soyons fous, pour toutes et tous. On sera accompagné de Paul Minet qui nous proposera des outils de modération, de coopération et d'intelligence collective pour essayer de favoriser l'expérimentation d'un espace de débat où la parole circule et où les prises de décision se font ensemble, ce qui nous donnera peut-être des idées et des outils pour nos futures réunions de travail et nos futurs tournages. Je vais citer les membres du groupe et je vais passer la parole ensuite à Anna. Donc on a la chance d'avoir avec nous Anton Balikdjian qui est réalisateur, Simon Bewick qui est scénariste, réalisateur et producteur, Émilie Dedognon, qui est productrice essentiellement de documentaires, Marie Lezay, qui est productrice également, Jérôme Pacouret, qui est sociologue de la culture et des médias, Audrey Pécom, qui est agente de comédiens, comédiennes et interprètes, Aurélie Pinto, qui est sociologue et chercheuse en cinéma, Antoine Pirotte, qui est essentiellement chef opérateur, mais qui a aussi d'autres casquettes, notamment acteur, Louise Rocabert, déléguée générale adjointe du syndicat SPIAC-CGT, Thomas Salvador, cinéaste, scénariste et acteur, et enfin Anna Sauvage, que je remercie d'avoir préparé et d'avoir passé beaucoup de temps et beaucoup d'investissement à préparer cet atelier avec moi.
Bonjour, eh bien, je suis Anna Sauvage et je remercie Ariane Papillon de m'avoir invitée. Et je serais très heureuse de parler de ce qu'on fait dans le collectif, mais peut-être à des moments de pause, etc. Et puis voilà, je n'ai rien d'autre à dire, je vous laisse la parole.
Pardon.
On va essayer d'être un peu plus...
On va essayer de parler, projeter la voix, mais sans trop se rapprocher du micro, pour éviter de vous faire mal au tympan. Alors nous, c'est le quatrième atelier, c'est logique qu'on arrive en dernier, parce que quand on fait les films, c'est pour qu'ils soient vus. Or, on sait très bien, je pense ici, que tous d'expérience, que les films peu financés ou pas financés ont une vraie difficulté à être visibles, à être vus, à rencontrer leur public. Donc on trouvait important de consacrer un atelier à cette question-là. Donc c'est l'atelier 4, la visibilité des films peu ou pas financés, qu'on a coordonné avec Cécile Sorin, donc ma collègue, à qui je passerai la parole juste après. On a essayé en fait de déplier en fait la question de la visibilité, elle est très multiple. Donc on a essayé de se dire comment on déplie un certain nombre de questions, peut-être pas toutes, mais un certain nombre de questions qui sous-tendent cette question de la visibilité, parce que c'est évidemment la visibilité dans des salles ou dans des festivals. C'est aussi la visibilité possiblement via des plateformes ou sur Internet, ou voilà, avec d'autres solutions possibles de visibilité ou de mise en relation
des spectateurs et des publics. Et voilà. Et donc, on s'est aussi posé la question de la curation que proposent, par exemple, les festivals ou parfois les plateformes, ou d'une possible sortie de la curation, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut imaginer pour qu'un spectateur qui désire voir des films puisse les trouver en dehors de simplement une recommandation qui pointe des films et qui, évidemment, en laisse beaucoup d'autres sur le carreau. Donc on a essayé de composer un atelier très divers avec des gens qui à la fois représentent des festivals, des initiatives, des salles de cinéma plus ou moins alternatives, et puis des gens qui représentent des plateformes et des universitaires, des chercheurs. On va les énumérer rapidement. C'est Rémi Chazot, je crois, dans l'ordre alphabétique de la petite bio. Alors, on n'a pas fait exprès, Rémi est passé par Paris 8, mais je l'ai découvert après l'avoir invité, pour ma défense. Donc, c'est un peu comme le côté néo-aquitain, c'est le cœur qui parle, on ne s'en rend pas compte. Rémi est en train de créer un festival qui s'appelle le Festival du film sur la paille. Et il se trouve que par ailleurs, il est programmateur de cinéma et médiateur culturel. Donc, voilà, je pense qu'il était intéressé par les questions de notre atelier. Il y a avec nous Julien Cholanami, qui est un des fondateurs de la salle Vidéodrome 2 à Marseille, qui est justement un projet de salle assez atypique et alternative. On a Emmanuel Falguière, qui représente l'Abominable, ce laboratoire argentique partagé et qui porte le projet Navire Argo, mais également une plateforme. Donc voilà. Et Emmanuel est également chercheur. Il est post-doc à l'INHA actuellement. J'essaie de faire vite parce que vous avez les bios très détaillés, plus détaillés si vous voulez. On a Samuel Gantier, qui est donc un collègue de l'Université Polytechnique Hauts-de-France, et qui, alors ça c'est vraiment merci le PEPR ICAR, il faut quand même le dire, parce que c'est grâce au programme de PEPR que j'ai découvert les travaux actuels de Samuel, qui en fait organise une journée lui-même un peu comme la nôtre le 4 juillet, Samuel, je ne sais pas où il est dans la salle, je me permets de le dire, hein, autour spécifiquement du cinéma documentaire, mais qui se pose des questions sur la visibilité, donc il m'a semblé naturel de t'inviter, je suis sûre qu'on a plein de...
Puisque tu fais la pub, c'est le 4 juillet à la SCAM,
rassemblement
professionnel universitaire, l'invitation est sur le site d'ICAR.
Voilà. Donc après, aujourd'hui et demain, vous pourrez poursuivre le 4 juillet avec Samuel. Moi, j'y serai en tout cas. On a Louise Gerbel, j'espère qu'elle est arrivée entre temps, parce que je crois qu'elle faisait partie des gens qui avaient plus de mal à arriver jusqu'au site, qui travaille pour la plateforme Prélude, voilà, qui est une plateforme spécifiquement orientée justement sur les premières œuvres, et donc ça me semblait particulièrement intéressant de questionner justement cette question de la visibilité avec elle. Emnan Rabet, qui est maîtresse de conférence à Paris 8, et qui a donc co-dirigé avec Cécile le numéro de Théorème sur le cinéma guérilla, et qui elle-même est cinéaste. Natacha Séverin, qui a fait partie du petit noyau d'organisation des deux parties précédentes, mais que là on invite en tant qu'invité pour discuter avec nous, puisque donc effectivement sa position au FIFIB fait que je pense que son apport est particulièrement pertinent pour les questions qu'on se pose. Et Cédric Walter, qui est donc producteur et distributeur de la société The Dark, voilà, qui est là, je crois. Cédric, et Cécile, je te passe la parole, si tu veux.
Merci. Oui, cette question de la visibilité des films, c'est pas simplement montrer les films, c'est bien plus que ça. En fait, ce qui se joue derrière cette visibilité, c'est aussi la possibilité d'un retour sur les films qu'on fait. Et qui évidemment donne du sens aussi au fait de porter ces films dans des conditions qui sont souvent extrêmement longues, extrêmement difficiles. C'est la possibilité tout simplement de faire vivre ces films dans une certaine durée, qui n'est pas forcément là non plus celle d'une sortie nationale en salle, mais qui est d'une installation parfois plus longue, mais qui peut être extrêmement fructueuse. Et puis, on le sait tous aussi, hein, ça engage les possibilités de production future pour les réalisateurs. Donc c'est vrai que cette question de la visibilité, c'est pas la cerise sur le gâteau, j'ai fait mon film et puis on peut ensuite le montrer dans quelques salles. C'est un enjeu aussi pour la suite, c'est-à-dire que ce qu'on a construit là, c'est une espèce de boucle en fait. C'est je montre mon film et je recommence, voilà. Tout à fait.
je pense qu'on a tenu les temps.
Merci beaucoup à tous. On a à peu près tenu les temps. C'est impeccable. Donc je vous rappelle qu'on n'a pas fait de... On a fait le choix de ne pas faire de présentation détaillée de chacun pour pas que ça prenne un temps infini. Et donc n'oubliez pas de vous reporter aux documents qu'on a constitué, ce petit annuaire dans lequel vous avez des photos pour qu'on puisse se reconnaître les uns les autres, et puis des petites bios de chacun, de façon à aller directement.